Merci de votre fidélité. Vous êtes bien sur RFI. Il est 1h à Paris, 2h à Goma.
Mathis Limano.
Et à la une, réunion extraordinaire ce vendredi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation dans l'est de la RDC. Les combats entre forces congolaises et M23 appuyées par le Rwanda ont fait près de 3000 morts selon les Nations Unies. Dans la ville de Goma, les morgues des hôpitaux sont pleines et de nombreux corps sont encore dans les rues. Les organisations humanitaires redoutent des épidémies. Explication dans un instant. Benjamin Netanyahou reçu à la Maison Blanche. Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Donald Trump alors que les négociations de la deuxième phase de la trêve ont commencé. Le président américain en a profité pour relancer son idée d'expulser les habitants de la bande de Gaza hors de l'enclave. À suivre aussi, les cours d'eau en Europe pollués. La Commission européenne tire la sonnette d'alarme et puis du cinéma en fin d'édition avec Mon gâteau préféré, un long métrage qui nous emmènera en Iran. Début de ce journal avec la situation à Goma dans l'est de la RDC. Le dernier bilan provisoire des Nations Unies fait état de près de 3000 morts suite aux affrontements. L'offensive lancée la semaine dernière par les rebelles du M23 soutenue par le Rwanda. 2000 personnes ont été enterrées, 900 dépouilles encore dans les morgues des hôpitaux et des cadavres en décomposition encore dans la ville. De quoi faire craindre aux organisations humanitaires des épidémies. Bounena Sidi Mohamed est directeur adjoint d'OCHA en RDC. Il est basé à Goma et répond à Guillaume Thibault.
La situation sanitaire est extrêmement critique et l'enterrement des corps est une priorité pour éviter des risques sanitaires majeurs. Au moins 2000 corps ont déjà été enterrés par les communautés et selon les chiffres de l'OMS qui vient de sortir aujourd'hui, c'est les 900 corps qui sont toujours dans les morgues des hôpitaux de Goma. Des nombreux corps en état de décomposition restent encore dans certaines zones, notamment à l'aéroport et à la prison de Goma. Les défis auxquels les acteurs humanitaires font face sont nombreux, notamment sur les questions sanitaires, les ruptures de stock des sacs mortuaires. Actuellement, seulement 500 sacs sont disponibles, dont 100 sacs pour enfants et 400 pour adultes. L'enterrement rapide de ces dépouilles est essentiel pour prévenir des risques sanitaires, notamment les épidémies, et nous travaillons avec nos partenaires pour accélérer cette opération.
Et au chapitre diplomatique, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se réunira vendredi pour évoquer la situation dans l'est de la RDC avant un sommet extraordinaire ce week-end en Tanzanie où dirigeants congolais et rwandais doivent se rendre. 15 prisonniers palestiniens libérés par Israël vont être accueillis en Turquie. Ils ont été libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël a d'ailleurs confirmé lundi une reprise des négociations avec le Hamas sur la deuxième phase de l'accord, après que le mouvement islamiste a relâché 3 otages le week-end dernier contre la libération de plus de 180 prisonniers palestiniens. La Turquie est l'un des pays qui s'était dit prêt à recevoir une partie d'entre eux, notamment ceux interdits de retourner dans les territoires palestiniens. Et ce, en vertu de l'accord de cessez-le-feu à Ankara, à Nandlower.
Ils sont 15, dans un premier temps, 15 prisonniers palestiniens libérés par Israël, désormais accueillis en Turquie. Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, a confirmé leur arrivée à l'issue d'une rencontre avec son homologue égyptien. Les anciens détenus sont arrivés d'Égypte après s'être vus délivrer les visas nécessaires par l'ambassade de Turquie au Caire. Le responsable turc n'a pas donné de détails sur leur identité. Le week-end dernier, la Turquie avait confirmé être prête à accueillir sur son sol certains Palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas. Le chef de la diplomatie turque avait présenté ce geste comme une façon pour Ankara de soutenir l'accord, donc de soutenir les Palestiniens, pour lesquels la Turquie a pris fait et cause dans la guerre à Gaza. Le ministre avait rappelé le précédent du soldat israélien Gilad Shalit, sa libération en 2011 après plus de 5 ans de détention en territoire palestinien, s'était effectuée en échange de la libération par Israël de plus d'un millier de prisonniers palestiniens, dont certains avaient été accueillis en Turquie. Anand Loire, Ankara, RFI.
Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu à la Maison Blanche par Donald Trump. La bande de Gaza, un endroit assiégé que les Palestiniens seraient ravis de quitter, a déclaré un peu plus tôt le président américain, ravivant ainsi son idée d'expulser les habitants de l'enclave vers des pays de la région, Égypte, Jordanie. Les remarques du président américain, une recette pour créer le chaos, a fustigé un haut responsable du Hamas. Et j'ajoute qu'à l'instant, Donald Trump dit que les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Fin de citation. Donald Trump pas pressé de parler avec Xi Jinping. Un appel est pourtant prévu prochainement entre les dirigeants américains et chinois. Un échange alors que la guerre commerciale entre les deux puissances économiques a débuté ce mardi. Dès minuit, les taxes sur les produits chinois ont augmenté de 10%. La riposte de Pékin ne s'est pas fait attendre. Une série de produits américains dont le charbon et le gaz naturel liquéfié sont désormais visés par des barrières douanières. Et on en vient à ces nouvelles révélations dans le scandale des eaux en bouteille. L'État français a autorisé Nestlé, propriétaire des eaux Vittel, Contrex et Épar, à utiliser des procédés de filtrage présentant un risque pour la santé des consommateurs. Ce sont les médias Radio France et Le Monde qui l'affirment dans une enquête. Dès janvier 2023, les autorités sanitaires ont recommandé l'interdiction de ces filtres illégaux. Le président français Emmanuel Macron réfute toute entente ou connivence avec Nestlé. On continue de s'intéresser à la qualité de l'eau, cette fois à l'échelle de l'Europe. La Commission européenne tire la sonnette d'alarme. Lacs, rivières, fleuves et eaux côtières sont dans un état critique dans les 27 pays de l'Union. Et c'est bien sûr la pollution qui en est la cause, Stéphanie Schuller.
Seulement 39,5% des eaux côtières, lacs et cours d'eau sont en bon état écologique, écrivent les auteurs de la Commission européenne dans leur rapport. La situation est encore plus alarmante quant à l'état chimique de ces eaux de surface. Seuls 26,8% sont jugées satisfaisantes. La faute à une large contamination au mercure et autres polluants toxiques. Elle est due en grande partie aux rejets industriels et surtout à l'impact considérable de l'agriculture intensive qui utilise des engrais chargés de nitrates. Quelques avancées timides pour sauver les écosystèmes des eaux de surface ont certes été obtenues. Les plantes aquatiques des lacs, par exemple, vont mieux. Mais ces quelques bons résultats ne freinent pas la dégradation généralisée des masses d'eau européennes. La commissaire chargée de l'environnement, Jessica Roswell, a appelé les pays de l'UE à ne plus considérer l'eau comme acquise et à changer d'état d'esprit. D'ici quelques semaines, l'exécutif européen veut présenter une stratégie sur la résilience de l'eau qui doit permettre aux 27 de lutter contre la pollution, mais aussi de faire face à la raréfaction de cette ressource vitale.
Stéphanie Schuller, le gouvernement épargné et bientôt un budget en France. Le Rassemblement national a mis fin ce mardi au suspense. Le parti ne votera pas les motions de censure déposées à l'Assemblée par la France Insoumise. Avant cela, les socialistes avaient annoncé ne pas voter non plus la censure, une décision courageuse, a salué le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Ces motions de censure examinées mercredi découlent de l'activation de l'article 49.3 par François Bayrou sur le budget de l'État et une partie de celui de la Sécurité sociale. C'est une victoire de la vie sur la mort. L'avocat de Serge Atlaoui, ce citoyen français emprisonné depuis 17 ans en Indonésie, il a été extrait de sa cellule ce mardi. Il est maintenant en route pour la France et doit atterrir mercredi matin à Paris. Serge Atlaoui avait été condamné à la peine capitale en Indonésie pour trafic de drogue, ce qu'il a toujours nié. Un mot de cinéma à présent, avec aujourd'hui un film qui nous conduit en Iran avec Mon gâteau préféré. Le duo de cinéastes Mariam Mogadam et Behtash Sanea signe une comédie romantique entre deux septuagénaires. Elisabeth Le Quéré.
Une veuve de 70 ans invite un soir chez elle un vieux chauffeur de taxi moustachu. Ensemble, Mahin et Faramaz vont redécouvrir la liberté de boire du vin et de danser, opposant aux interdits la force vive de leur désir. Mon gâteau préféré fait le compte des illusions perdues, du durcissement des conditions de vie en Iran, tout en observant la manière dont l'amour reste la seule chose qui ne se soit pas usée avec le temps. Ce huis clos tout en nuances et délicatesse va chercher sa mélancolie dans les formes douces, amères du décalage, de la pudeur et du secret. Car Mahin et Faramaz, ces deux âmes esselées, sont bien les cousins iraniens du couple Sophia Loren, Marcello Mastroianni, d'une journée particulière. Tout ou presque s'y déroule dans la maison de Mahin, filmée comme un tombeau, puis comme un écrin miraculeusement préservé de la grisaille ambiante, offrant au couple, bien sûr, la promesse miraculeuse d'une renaissance. Voilà sans doute des ingrédients connus, mais suffisamment bien agencés pour faire filer 90 minutes de notre temps comme un éclair.
Elisabeth Le Quéré. Et puis en foot, on jouait pour une qualification en quart de finale de Coupe de France ce mardi. Paris s'est imposé sans surprise contre Le Mans qui évolue deux divisions en dessous des Parisiens. Brest évite le piège des Troyens et valide aussi son ticket pour les quarts de finale. Victoire 2-1. Enfin, cette grosse déconvenue à Lille. Les Lillois sortis de la compétition par Dunkerque au terme d'une séance de tirs au but. RFI, il est presque 1h10 à Paris.